Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40 tout pile sur France Inter, à table.
C'est énorme ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Dans 2 heures, des hordes de mioches vont se ruer au réfectoire et nous, parents débordés et pas doués du tout en cuisine, on rentrera ce soir à la maison. On leur fera une assiette de pâtes et on se dira, c'est pas grave, vu qu'ils ont mangé de tout à la cantine ce midi. Après quoi, on allumera M6 et la patatras, on se prendra en pleine figure cette bouffe infecte qui nourrit mal, mais surtout dégoûte les enfants déjeuner après déjeuner. Pas étonnant qu'il se rue sur les paquets de gâteaux en rentrant pour le goûter. 4 chefs cuisiniers starifiés par M6 contre-attaquent, prenant à bras-le-corps toutes les facettes de la question que soulève le repas de collectivité. Et ce n'est pas une mince question. Son goût, sa valeur nutritive, son coût, sa gestion administrative, pire, son encadrement réglementaire. Et bah, même pour des produits fourneaux, ce ne sera pas de la tarte.
L'instant M. Sonia De Villers. Sur France Inter.
Ça vous fait rire, Guylaine Arabian, bonjour.
Bonjour.
Alors, Guylaine Arabian, vous êtes née dans le Nord, dans votre bistrot parisien. Aujourd'hui, vous vivez à Paris, vous servez une cuisine très inspirée de votre région natale. On va en reparler parce que d'ailleurs, l'émission se passe à Béthune. Oui. C'est vous qui aviez envie de...
Non, j'étais ravie d'y aller.
Voilà, c'est ça. Vous êtes formée sur le tas, ça ne vous a pas empêché d'exercer votre métier au prestigieux Pavillon Le Doyen et d'avoir engrangé des étoiles au Michelin. Ça, c'est pour la biographie. Vous l'avez glissé dans l'émission de ce soir sur M6, vous n'alliez pas à la cantine quand vous étiez petite. Pourquoi ?
Je n'y allais pas parce que mes parents ne m'y mettaient pas à la cantine. Et puis, je regardais toutes les copines qui allaient. J'étais très envieuse.
Oui, parce que c'est un vrai moment de sociabilité, la cantine. C'est important.
Oui, tout à fait. Et puis, je les voyais partir en les bras, bras dessous
et
à la cantine.
Vous étiez exclue de
et
ça.
Et moi, je rentrais à la maison.
Et vos enfants à vous, vous les avez mis à la cantine ?
Oui, mais ils ont mangé chez moi, mais je les ai mangés aussi. Et je les ai mangés.
Quel lapsus extraordinaire !
J'ai mangé mes enfants.
Oui. Pour un chef cuisinier.
Mon Dieu.
Si vous voulez, on en repart.
mais c'est vrai que je les ai mis à la cantine. Mais j'avais des amis qui avaient des restaurants tout autour et qui leur disaient venez, vous venez manger un couscous, venez manger ceci, venez manger cela. Puis ça se passait comme ça.
Bref, on va reparler gamelle, réfectoire à la télévision. On va reparler psychanalyse aussi, si vous voulez. Guylaine Arabian, qu'est-ce que c'est que de cuisiner pour ses enfants sans les manger. En attendant, je vous propose un détour par Perpignan où vient de commencer le festival Visa pour l'image. C'est le plus grand rendez-vous du photojournalisme en France. Alors le photojournaliste, c'est ce mot valise qui réunit la photographie et le journalisme, dont les exigences peuvent parfois diverger. J'ai posé la question par téléphone à l'un des très grands noms du métier. Il s'appelle Laurent van der Stock. Il a passé 9 mois à Mossoul, couvrant pour le journal Le Monde une bataille décisive dans la guerre contre Daesh. Terrain extraordinairement complexe, où différentes forces armées se sont côtoyées, n'ayant pas toujours le même rapport à la population civile, dont la détresse reste le maître mot des photos de Laurent van der Stock. Oui, mais comment le photojournaliste fait-il le tri entre une belle image, une photo forte, bien composée, efficace, et le cliché qui traduit à l'information dont il a été témoin.
Je ne parlerai pas de bonne ou de belle photo, je parlerai d'une photo qui correspond à l'usage qui lui est attribué, à sa destination.
C'est-à-dire une destination d'information.
C'est une image qui essaiera d'être le plus possible en adéquation avec la réalité de ce qui se passe. Prendre des images, c'est un peu prendre des notes et éditer les photos qui vont partir vers le journal, c'est se servir de ces notes pour écrire quelque chose qui correspond le plus possible à ce qui se passe et à ce à quoi on peut assister.
Donc vous avez souvent dans votre carrière écarté de très bonnes photos parce que justement elles n'étaient pas l'illustration d'un propos de journaliste sur le terrain.
Sans doute que pour certains, une image qui aurait plus d'emphase ou plus dramatique, je peux l'écarter. Parce que peut-être, justement, elle évoque quelque chose qui ne correspond pas à ce que j'ai compris, moi. C'est le propre de la photographie, quand même, dans le sens où, sans légende, sans explication, sans contexte, une image est rarement en soi une information sûre.
Et justement, aujourd'hui que vous composez une sorte de rétrospective pour Visa, pour l'image, on est sorti de la publication quotidienne dans un journal éphémère lié au fait du jour de l'image que vous avez produite et fabriquée. Là, vous changez de format, vous changez de support, vous avez le recul de ces 9 mois passés à Mossoul. Et du coup, votre récit s'articule très différemment.
Alors, Perpignan est un peu un cas particulier. Une exposition n'est pas un journal et faire du photojournalisme au mur, personnellement, je pense que c'est impossible. D'abord, le visiteur ou le spectateur qui vient à une exposition n'est pas dans la disposition d'esprit ou dans la même démarche que quelqu'un qui ouvre un journal et qui cherche à s'informer de façon quotidienne ou qui a le temps de s'asseoir et de lire. Et puis, une image dans un journal n'est jamais que la reproduction d'une photographie, dans le sens où une photographie, c'est un objet avec une taille, une chromie, une surface, un nombre choisi, une dimension choisie, qui sont un ensemble de facteurs qui vont faire dire à la photographie autre chose. Donc l'espace d'une exposition n'est absolument pas la même expression qu'un journal, ni même peut-être du journalisme à proprement parler. Perpignan est autre chose. Perpignan est un endroit où on montre la production de photographes qui ont travaillé à destination de la presse. C'est bien de s'y attendre, d'y aller avec la bonne compréhension de ce qu'on va voir.
Merci beaucoup. C'était donc Laurent Van der Stock que nous avons joint à Perpignan hier. Le festival Visa pour l'image, c'est dans toute la ville. En ce moment, il y a des images incroyables à y retrouver, à y voir, à y découvrir et de grands photographes à y rencontrer.
L'instant M sur France Inter.
Voilà, Guylaine Arabian, chef multi-étoilé, starifié par M6, c'est donc mon invité ce matin dans l'Instant M. Elle vient de faire un superbe lapsus, elle a du mal à s'en remettre. SOS Cantine, les chefs contre-attaque, 5 saisons de Top Chef, c'est ce qui vous a fait connaître du grand public, Guylaine Arabian. Là, vous êtes entouré de 3 de vos confrères, anciens candidats de Top Chef. Enfin, tout le monde est issu du petit écran dans cette aventure. Et je dirais que cette émission est tout à fait d'utilité publique. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce que vous découvrez dans les cantines scolaires de Béthune, ville que vous avez choisie pour expérimenter ce programme, est proprement effarant. On écoute 2 de vos confrères réagir à ce qu'ils voient et à ce qu'ils goûtent.
On parle d'enfants, et on parle de normes, et on parle de budget. Et puis après, il ne faut pas se plaindre qu'ils aillent bouffer de la junk food, parce qu'ils n'ont plus de goût, parce que tout ce que vous avez en bas, mais c'est catastrophique. Tous les jours, les gamins bouffe cette daube. Qu'on en mange avec parcimonie, c'est pas trop nocif, mais qu'on en mange tous les jours, on va les buter.
On parle juste de leur faire manger des choses qui puissent les nourrir et qui ont une valeur nutritive pour que ces gamins, ils aient quelque chose dans le ventre, qu'ils aient un repas.
Oui.
Là, je suis désolée, mais une macédoine de légumes pleine de flotte, comme on l'a goûté ce matin avec la mayonnaise, où il n'y a rien dedans, que des émulsifiants et que des merdes, parce que c'est le mot, bah, je suis désolée, mais ça ne peut pas consolider la croissance d'un gamin normal.
Ça, c'est le vocabulaire Top Chef. Hein. On reconnaît le franc-parler de Top Chef qui ne mâche pas ses mots. Question subsidiaire, est-ce que quelqu'un mange encore de la macédoine de légumes en dehors des cantines scolaires, puisque c'est l'un de nos pires souvenirs à tous, Guylaine Arabian?
Moi, j'en fais au restaurant, donc j'ai des clients qui en mangent. Oui. Et de la fraîche.
Et de la fraîche,
bien sûr.
C'est-à-dire des légumes frais, puisque c'est une des questions cruciales de ce programme ce soir sur M6. Et puis de la mayonnaise faite maison. Et pas de la poudre. Le sujet n'est pas nouveau, Guylaine Arabian, vous êtes bien d'accord, ce désastre nutritionnel des cantines scolaires. Tout le monde n'a pas lu les bouquins de Xavier de Namur, qui est un autre chef du Sud-Ouest, hein, qui est rentré en croisade contre l'absurdité de cette malbouffe dûment organisée par les pouvoirs publics. Tout le monde n'a pas souvenir non plus peut-être des premiers programmes de Cyril Lignac qui datent d'il y a 10 ans dans les cantines scolaires et qui se heurtaient au même mur que vous et vos confrères. Moi, l'une des aspects qui m'a le plus touchée, après on va voir qu'on apprend beaucoup de choses, c'est peut-être l'enjeu humain que vous mettez derrière vous, les cuisiniers, derrière ce programme. C'est un univers de cuisiniers et de cuisinières où plus personne ne cuisine. Vous le dites d'ailleurs en rencontrant les cantiniers, les cantinières, ce sont des cuisines fantômes, Guylaine Arabian.
Sont des cuisines pleines de boîtes, pleines de rien, pleines de poudre, pleines de tout ce qu'on veut, sauf de cuisine, sauf de produits, sauf c'est aberrant quand on sait qu'en plus à la cuisine centrale, les responsables de cuisine centrale sont des cuisiniers.
C'est ça, ils ont été formés.
Ils ont été formés, ils ont eu des restaurants où ont travaillé, ils ont été chefs, et c'est aberrant. Et tout au long de l'émission, on les voit un petit peu à la fois se dire mais tout compte fait, nous ils nous ont quand même passivement rejeté, parce oui. qu'il n'y en a pas beaucoup qui osaient nous le dire en pleine figure, mais on le sentait très bien.
On sent le complexe qu'ils voilà. ont par rapport à vous et la fierté de se remettre au travail voilà. avec vous. On entend l'un d'entre eux et on va vous expliquer ce que c'est qu'une cuisine centrale.
Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites là?
Chou vanille, chou crème pâtissière vanille.
Et ça, c'est comment ça se passe? C'est vous qui la faites, la crème?
Non, enfin, c'est de l'industriel, c'est toujours pareil, c'est de la poudre.
La pâte à choux, par contre, vous la faites vous?
Ah non, c'est du tout fait aussi.
Nos chefs vont de déconvenu en déconvenu.
Jérôme, t'es pâtissier, toi, à la base?
Ouais, ouais.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce qu'on dit?
Ah, bah, ouais.
Attends, mais toi qui es vraiment un pâtissier...
Donc tu sais faire une pâte à choux, tu sais faire une crème
Bien
pâtissière?
Bien sûr, ouais.
Ça te manque aujourd'hui?
De temps en temps, ouais. Ouais. Je m'éclate à la maison.
Ouais, non, mais voilà, ouais. Non, mais je, ouais.
90% des cantines françaises, on l'apprend dans l'émission, sont livrées par une cantine centrale. Donc c'est livré par camion et vous découvrez des barquettes plastiques avec des courgettes et des pâtes cuites 5 jours à l'avance. Vous découvrez aussi un matériel de cuisine qui ne peut pas produire autre chose que des plats où tout baigne dans la flotte. Guylaine Arabian, pourquoi ?
Parce que petit à petit, je pense que tout le monde s'est enlisé dans une espèce de torpeur agréable en se disant bon ben on aura moins de travail, ça ira plus vite et puis il y a les normes de sécurité. C'est pas vrai parce qu'on peut cuire, on peut faire plein de choses dans les normes de sécurité.
Alors les normes de sécurité, Diane, racontez-nous ce que vous avez découvert parce que vous pointez l'absurdité de la chose.
Bien sûr, on pointe l'absurdité de la chose parce que je suis désolée, mais on donne à manger aux enfants des barquettes et de tous les produits, il n'y a pas que les courgettes, hein, qu'on réchauffe dans des fours qui sont mis à 100 degrés parce que surtout il ne faut pas que ça cuise. On sort de là des produits sans goût, pas assaisonnés, mais c'est infect. Et tout ça au nom de la traçabilité parce qu'il y a une étiquette dessus, parce que ils n'ont pas le droit de les transformer. Donc c'est vrai que nous, dans une cantine où sommes allés, on a vu les cantinières qui ramenaient un peu d'huile d'olive, un peu d'herbe qu'elles achètent elles pour essayer de faire manger les enfants parce qu'il y a une quantité phénoménale de déchets.
Elles sont là pour jeter essentiellement.
Mais voilà.
Elles jettent.
Ah ça, je peux vous dire que c'est aux normes. Hein. Oui. Les poubelles sont aux normes. Hein. Les sacs sont grands, c'est jeté, il ne reste rien.
Et je précise que parmi ces programmes que propose M6, les chefs contre-attaque, vous avez participé à un SOS gaspillage et à un SOS Made in France. Oui. Et d'ailleurs, dans les cantines, on retrouve ces questions hein, du gaspillage oui.
et du
Made in France. Hein, parce que le maire de Béthune le dit et s'est expliqué ce matin dans le Parisien, dans l'article du Parisien aujourd'hui en France. Il aimerait bien faire entrer des produits locaux dans le système de la cantine scolaire et des collectivités, des repas de collectivités, mais il ne le peut pas.
Non, parce qu'il est prisonnier d'un système. En plus,
il est prisonnier des règles d'appel d'offres voilà. des marchés voilà. publics.
Exactement. Alors... Donc, en fait, il tourne parce que lui, le fait de nous avoir accepter, héberger dans ces cantines, il fallait un certain courage parce qu'ils savaient très bien qu'on n'était pas venu là pour distribuer des médailles. Quoi. On savait très bien ce qu'on allait faire. On voyait, de toute façon, on le savait.
Alors, vous êtes en face quand même d'un mur de normes qui font que, pour respecter ces contraintes européennes, ce qui arrive dans ces cantines centrales est assez effrayant. Petit extrait.
Car il faut savoir que depuis 1997, les normes d'hygiène imposées par l'Union européenne sont de plus en plus strictes. Pour éviter tout risque de contamination microbienne, il est recommandé de ne pas faire entrer dans une cuisine collective les produits les plus porteurs de germes. D'abord, les légumes et bulbes qui poussent dans la terre. Pour éviter le risque, la cuisine centrale a donc choisi de les remplacer par des produits surgelés ou en conserve. Les coquilles d'œufs. Les œufs sont donc livrés sous forme de poudre ou pré-cuits. Les carcasses d'animaux. Difficiles à désosser et à conserver, elles sont remplacées par de la viande prédécoupée, sous vide, et des fonds de sauce déshydratés.
Guylaine Arabian, quatre chefs qui décident de reprendre en main un menu de cantine scolaire. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous plantez de manière quand même colossale au départ, que c'est pas si facile que ça, que d'être trois pour arriver à...
Quatre, on était quatre!
Quatre, mais en cantine centrale, oui, ils vont trois. Être trois pour faire 1600 repas en quatre heures. Donc c'est pas si facile que ça. Le tout pour un coût de 1,48€, parce que le prix de revenu d'un repas, c'est 11€, mais ce qui est dépensé pour l'alimentation, pour les produits alimentaires, c'est 1,48€.
Oui, c'est vrai. Mais il faut pas oublier non plus que dans les cantines et dans l'administration, ils ne payent pas les produits bruts au même prix que le consommateur. Pour la bonne raison que ça se chiffre par tonne à l'année. Mais de toute façon, nous, on se heurte déjà à une barrière de règles et une barrière humaine. Parce que quand on arrive, qu'on est, il faut tout remettre. Ça va pas être possible, ça va pas être possible. Et puis on peut pas faire ça, et puis on peut pas faire ça. C'est faux, parce qu'on les a amenés à le faire. Donc c'est possible. On a fait des recettes, on a dû établir nos recettes. Et on se rendit compte, on se dit mon Dieu, là ça va coûter trop cher. Donc on revenait. Mais tout compte fait, on a sorti chacun un menu qui rentrait dans les normes.
Dans les 1,48€. Et uniquement avec des produits frais, parce que c'est un des grands enjeux de ce programme, c'est-à-dire faire en sorte de cesser la soupe préfabriquée, l'omelette pré-cuite vendue sous vide, c'est-à-dire tout ce que contiennent les réserves d'une cuisine centrale. Il n'y a pas de produits frais dans une réserve de cuisine centrale.
Ah ben dans celle-là, il n'y avait rien. Il y a d'autres exemples en France, une ou deux villes qui font tout eux-mêmes avec des légumes de leur potager, parce qu'ils ont construit un potager et tout. Donc c'est possible.
Parce
que ça revient moins cher, parce qu'il n'y a pas de déchets.
Racontez-nous la tomate farcie, 100% pur bœuf.
La tomate farcie, parce que je regarde les menus et je vois tomate farcie à la provençale, pur bœuf. Je dis, bon, ça c'est génial. Et puis on va dans les frigos et tout ça, je vois des montagnes de cartons surgelés, d'une grosse maison de surgelés. Et je vois tomate farcie à la provençale. J'ai fauché, volé une étiquette et j'ai regardé, on a regardé après. Il y avait, je me souviens plus, ça doit être 3% de bœuf. C'est
1,3.
Tout. 1,3. 1,3. Vous voyez, bien 3. 1,3 de viande de bœuf. Le reste, c'était des fibres de bambou,
de la peau de dinde,
un peu de viande de dinde, et puis beaucoup de œufs, beaucoup de sucre, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Bon, on les fait. Les tomates, elles étaient roses. Elles n'avaient pas une tête de tomate, elles étaient roses. Donc, je ne sais pas d'où elles venaient, celles-là non plus. Elles n'étaient pas marquées. Donc, et à midi, nous sommes allés à la cantine. Déjà, l'odeur qui se dégageait, c'était immonde. Moi, on m'a obligé à en manger un morceau. Pierre a refusé. Il m'a dit, tu le manges,
Pierre Auger, l'un de vos confrères.
Pierre Auger a refusé de le manger. Il dit, je ne veux pas mourir. Moi, je l'ai mangé parce qu'en plus, j'étais face caméra. J'étais obligée de manger ça. Je pouvais pas l'avaler. Impossible.
Est-ce que vous êtes une militante, en règle générale, en matière de repas, de nourriture, de gastronomie, Guylaine Arabian?
Moi, je suis militante pour ça, oui, parce que c'est tellement facile. Tellement facile de trouver un produit frais. Moi, je suis désolée, ça coûte au marché. Il y a plein de marchés. En plus, c'est tellement agréable à faire. Il y a plein de grandes surfaces qui font beaucoup d'efforts sur les prix pour que tout le monde puisse avoir un accès aux fruits et aux légumes. Donc, je pense que c'est pas possible de donner ces choses-là à manger aux enfants. C'est pas possible, et encore moins pour une cuisine centrale qui a encore des prix encore beaucoup plus faibles sur tout ce qui est frais. Donc, non, moi, je suis pas d'accord. Donc, les tomates farcies qui partent à la poubelle, je suis pas d'accord non plus. Donc là, je deviens mal aimable.
Mal aimable.
Je suis mal aimable.
D'ailleurs, on vous voit, vous êtes un vrai pitbull dans cette émission. De la même manière que vous reprenez en main les cantiniers, les cantinières et les cuisiniers, les cuisinières que vous remettez au travail. Là aussi, il y a un vrai défaut de formation, il y a un vrai défaut de personnel. Il faut recruter, investir, rééquiper ses cuisines et reformer les gens.
Bien évidemment, et quand on leur a mis un peu de matériel, on a dit ben voilà, on va vous réorganiser la chose, on va vous mettre des cuisines où vous pouvez envoyer 3000 repas parce que maintenant il y a du matériel pour ça. Où vous faites, nous on l'a fait, on leur a montré qu'un saumon on le cuit en 3 minutes, et ils ont des choses fraîches. On l'a fait. Donc c'est possible.
Donc c'est possible. Bon, SOS Cantine, les chefs contre-attaque, c'est ce soir sur M6. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Guylaine Arabian qui retourne donc s'allonger sur un divan après le début de cette émission. Je vous conseille vivement de réécouter. D'ailleurs, ça tombe bien. Salut Ali Rebéi.
Bonjour Sonia de Villers. Vous voulez que je m'allonge sur un divan?
Non, pas vous. Non. De quoi vous allez nous parler?
On va essayer de dresser ce matin un portrait robot de nos enfants, les enfants des années 2000-2010. Quel regard portez-vous sur ces enfants nés depuis une douzaine d'années, un regard plutôt bienveillant ou plutôt critique? 01 45 24 7000.
Est-ce que vous allez vous intéresser à leurs estomacs?
Non, mais ce sera l'objet d'une autre émission. J'inviterai Guylaine Arabian avec plaisir.
Ce sera juste après les infos.